invitée ce matin l'une des artistes les plus reconnues de la scène artistique contemporaine. Elle fut la première femme invitée à exposer au château de Versailles en 2012, première également à représenter le Portugal à la Biennale de Venise en 2013, à faire l'objet en 2018 d'une exposition au musée Guggenheim de Bilbao. Son style baroque, ses matériaux, tissus, broderies, faïences, céramiques, ferronneries. Sa patte transformait des objets du quotidien en œuvres fantasques et décalées, souvent gigantesques, et son esprit subversif et joueur. Le musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg lui consacre jusqu'à la fin du mois de février une rétrospective, mais c'est à Paris que nous l'avons rencontré, dans un grand magasin historique qui lui a donné carte blanche pour créer une œuvre. Cela s'appelle Brancolus, Lumière Blanche. Johanna Vasconcelos s'est prêtée pour nous au jeu de la présentation de son travail, mais tout d'abord une question sur son rapport au lieu où elle s'expose.
D'exposer au château de Versailles, c'était un plaisir, un rêve, une honneur. Bon, c'était tellement émouvant tout le projet que c'était très spécial parce qu'en fait, dans ma production, j'ai toujours une forte relation avec les lieux, avec l'architecture, avec la décoration, avec l'ambiance, les gens qui sont dans le lieu, qui habitent le lieu, qui visitent le lieu. Tout ça est très important pour ma démarche personnelle en tant qu'artiste. Et beaucoup de fois, mes pièces, comme les Valkyries, qui est une de ces pièces ici au Bon Marché, elles sont dessinées en relation avec les lieux et en relation avec les gens, avec la lumière du lieu, la décoration. Et en fait, à Versailles, j'ai fait une Valkyrie dorée pour la salle des batailles, qui était en relation avec le lieu tellement forte que les gens, elles se disaient, elle appartient au lieu depuis toujours. En fait, de faire Versailles, c'était très important parce que j'ai compris que j'avais toujours comme l'endroit parfait pour mes œuvres, le château de Versailles en tête. Ce qui est quelque chose que j'avais jamais compris, seulement quand j'étais invitée par Jean-Jacques Ayagon, je me suis dit, mes pièces, elles sont parfaites pour Versailles parce qu'en fait, c'était le scénario parfait. Comme une espèce d'opéra européenne que j'ai toujours eu en tête, où les pièces, elles jouaient un rôle dans cet endroit.
Bon, alors, il faut dire qu'il y a quand même un point commun à tous ces lieux, quand même. Et puis, j'ai pas cité le Guggenheim de Bilbao, mais c'est aussi des lieux qui sont très, très grands. C'est ça le point commun de ces lieux et qui correspondent quand même assez bien, Johanna Vasconcelos, à vos œuvres qui sont en général monumentales.
Oui, mes œuvres ne sont pas tous monumentales, mais celles qui sont faites sur mesure pour certains lieux, des grands lieux comme vous avez décrit très bien, ça veut dire que les grands musées, les grands châteaux, le Grazzi à Venise ou les Giardinis à Venise ou d'autres endroits, l'Arsenal que j'ai fait aussi à Venise ou les grands musées comme Arge Musée ou Manchester, j'ai dû faire des pièces sur mesure avec une forte relation d'abord avec la culture, aux femmes qui habitent cette culture et ces villes, et après, le bâtiment. Ça veut dire que ici au Bon Marché, la pièce, elle s'appelle Simone.
On va y venir, bien sûr.
Et bien sûr, c'est une pièce qui est dessinée sur place, en relation avec le bâtiment, avec les escalators, et en relation avec le Bon Marché, c'est une pièce qui est complètement blanche. Pourtant, à Versailles, elle était complètement dorée, parce qu'elle était en relation avec le dôme de la galerie des batailles, où tout l'environnement était doré.
Johanna Vasconcelos, venons-en donc au Bon Marché. Quelle relation entretenez-vous avec cet endroit? Qu'est-ce qu'il représente pour vous?
Bon, le Bon Marché, c'est un lieu très particulier pour moi, parce qu'en fait, quand je viens à Paris, il y a deux choses que je fais toujours. D'aller au Pompidou, soit au Pompidou, soit au Louvre. Quand j'ai le temps, je fais les deux. Et au Bon Marché.
Donc le temple de la culture, le temple de la consommation de luxe.
Et non, pas seulement, parce qu'en fait, le Bon Marché, c'est pas qu'une consommation de luxe, c'est aussi une façon de bien regarder l'air du temps. Ça veut dire qu'est-ce que les autres créateurs au monde sont en train de penser? Quelles sont les tendances? Quels sont les aspects dans le design et dans la mode qui sont présents dans ce moment? Et moi, en tant que créateur du présent, je veux avoir une idée que qu'est-ce que mes collègues sont en train de faire. Et le Bon Marché, c'est un très bon endroit pour voir les meilleures créations. Et les chaussures, le design, pas mal de choses, on peut regarder. Au Bon Marché, on peut se dire, OK, je comprends quel est l'air du temps. Qu'est-ce que les gens, les autres créateurs qui sont dans le monde, sont en train de penser? Et ça m'aide beaucoup à ma création parce que, en fait, mes œuvres, elles ont beaucoup de relations au design et à la mode. Et de venir ici, c'est pas forcément pour le côté de consommation que j'adore aussi, mais c'est pourtant d'avoir un regard, une overview sur la création présente.
On parlait des œuvres qui s'exposent tantôt dans un château, tantôt dans une biennale. Il se trouve que la particularité quand même de cet endroit qui est le Bon Marché, c'est que ça n'est pas, et que d'ailleurs ce qui est le cas aussi du château de Versailles ou qui est aussi le cas de la biennale, c'est que ce ne sont pas des musées au sens strict du terme. Vous avez aussi exposé dans des musées, mais le fait même que l'art s'expose en dehors du musée. On va venir ensuite quand même à ce lieu de consommation qui est le Bon Marché. Hein. Mais est-ce que ça vous pose des questions particulières par rapport au lieu ? L'art s'expose à un autre endroit que classiquement dans un musée.
Oui, moi je suis très privilégiée dans ce sens, parce qu'en fait j'ai réussi à sortir de la normalité du monde de l'art contemporain. Ça veut dire le monde de l'art contemporain se développe dans trois endroits typiques au classique, soit le musée, la galerie ou l'espace du jardin, l'extérieur, l'art public. Ça, ce sont les trois et les collectionneurs, les maisons. Okay, on peut dire quatre. La tradition est de faire les galeries, les musées, les maisons et l'art public. Et dans ce royaume, on peut développer notre carrière et de jamais y sortir. Et c'est très intéressant. Mais quand on fait 25 expositions par an, comme moi, dans des centres d'art, que ce sont des petites structures muséales, dans des fondations, dans des musées, dans des espaces classiques du monde de l'art contemporain. Au bout de quelques années, on a déjà eu suffisamment d'expérience pour savoir comment ça se passe. On connaît les équipes, on a les façons de penser, de travailler. Après, il y a un peu de tout, mais c'est le même univers. Et on a l'habitude de travailler dans cet univers. Les règles, les façons de monter, toutes les équipes, elles sont montées de la même façon. L'équipe de mon studio, elle est très proche des équipes des musées. Ça veut dire que nous, le studio, on s'est établi à l'image d'une fondation. Mais quand on sort de cet univers et on rentre en relation avec d'autres structures, comme le Bon Marché, qui est une structure pas du tout artistique, mais pourtant qui a un raccord très important avec la création. Et quand on sort, on fait des jardins, ou on fait un bateau, ou on sort de notre univers, et là, il faut qu'on se réadapte et qu'on a une versatilité pour réussir à travailler avec des gens qui ne sont pas du tout du monde de l'art. Et le château de Versailles, bien entendu, c'est un lieu muséologique, mais pas du tout de l'art contemporain. Et c'était très intéressant parce que ce sont des défis, finalement, où il faut qu'on change toute notre façon de penser, on s'adapte au lieu, aux gens, à leur façon de penser, de travailler et de regarder le lieu.
Alors ça, c'est très important parce qu'effectivement, on peut se demander qu'est-ce que vous attendez du public qui vient ici au Bon Marché, pas nécessairement d'ailleurs pour consommer, mais aussi comme vous le faites vous, pour aller voir les nouvelles tendances, ce qui se passe, ce qui se crée. Je pense que ce qui est important, c'est de retenir le mot création, effectivement, peut-être plus que consommation. Oui. Mais qu'est-ce que vous attendez de quand même ces gens qui déambulent dans un espace qui est malgré tout un espace de consommation et qui lève les yeux au ciel et voit une création purement artistique. Est-ce que vous le pensez en termes de confrontation, art et consommation, ou finalement ça permet de remettre sur un droit-pied le regard des gens, des visiteurs qui sont ici ?
Moi je crois que les visiteurs qui viennent ici ce sont des gens qui vont aussi au musée. Et ce sont des gens qui ont des préoccupations artistiques. Même si elles y vont pas beaucoup dans une galerie, mais elles savent qu'est-ce que ça veut dire. C'est à peu près le même public. Et c'est complètement faux de dire que les gens qui viennent ici ne savent rien de l'art contemporain, que c'est un public différent. Ce n'est plus vrai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je crois que les gens, elles ont une culture beaucoup plus amplifiée que ce qu'on pense. Ce qui est spécial et différent, c'est de mettre en relation deux univers qui apparemment sont séparés, mais pas le public. Le public lui-même, il fait une consommation beaucoup plus multiculturelle. Ça veut dire que la mode n'est plus séparée de l'art, qui n'est plus séparée du cinéma. Les références, elles sont en Instagram, dans les Facebook, tout est lié. Mais les gens ont la tendance de séparer ces choses-là. Ce qui est très intelligent du projet du Bon Marché, c'est de mettre en relation quelque chose qui est déjà fait personnellement par chacun de nous. Ça veut dire que nous, on achète une tendance dans laquelle on identifie, mais les gens, elles habillent plus Chanel tout le temps. Ce n'est plus comme ça. Nous-mêmes, on habille multimarques. On mélange les marques. Et c'est plus
ça
comme
ça. Ça n'a jamais été pour tout le monde, d'ailleurs.
Bon, voilà. Mais il y avait cette idée de qu'on n'habillait qu'une marque. On n'avait qu'une identité. Et ça veut dire que si on était de la mode, on était de la mode. Si on était de l'art contemporain, on était... Et maintenant, tous les milieux
sont... Une superposition.
Mmh. Et une interaction et un discours mélangé entre les marques. Si je parle de marque, je parle d'univers artistique et créatif. Et ça veut dire que cette idée présente ici au Beaumarchais fait que le Beaumarchais peut mélanger le design avec la mode, avec l'art contemporain, avec la peinture. Ça veut dire que ce mélange que nous-mêmes on fait avec nous-mêmes, dans notre vie, le Beaumarchais est en train de reproduire ça au Beaumarchais. C'est très intelligent.
Joanna Vasconcelos, quelles ont été les contraintes que vous a données le Beaumarchais? Quelles ont été les marges de manœuvre, la liberté que vous avez eue? Déjà, je crois qu'il y a eu une contrainte de couleur,
oui,
tout simplement.
Oui, en fait, la seule contrainte, c'était... je ne vois pas comme contrainte, mais comme défi, c'était le blanc en tant que couleur. Et en fait...
Sachant que vous êtes plutôt une coloriste,
oui,
c'est un défi.
C'était un défi parce qu'en fait, ça faisait déjà partie de ma démarche personnelle de faire une Valkyrie toute blanche et d'avoir le défi du blanc parce que j'en ai fait une toute noire, une toute dorée pour Versailles. Après, j'en ai fait une toute rose pour Londres. Et en fait, je voulais absolument faire la blanche et je voudrais faire dans le futur la rouge aussi et la bleue. Alors, j'ai pas encore fini mon projet, mais en fait, d'avoir l'opportunité de faire la blanche, c'était pour moi... parfait, parce que je suis dit, voilà, le moment est arrivé, le lieu est arrivé, parce que ces pièces ne peuvent pas être faites sans cette relation et qui est une relation interactive avec le bâtiment, avec le lieu, avec l'identité du lieu, la démarche du lieu. Parce qu'un lieu, un grand magasin, c'est complètement différent d'une galerie à Londres ou d'un grand musée. Ce n'est pas du tout la même relation. En fait, les gens, elles y vont pas par les mêmes raisons, mais pourtant, ce sont les mêmes gens. Alors c'est bien de pouvoir avoir ce défi et de dire bah ok, je fais la pièce toute blanche, je m'habille tout en blanc et je fais partie de cette performance finalement qui est l'art contemporain.
On va bien sûr aller la voir, votre Valkyrie, mais bien entendu, on a quand même envie de savoir, Joanna Vasconcelos, comment sont nées ces Valkyries dans votre esprit, et puis en vrai, puisque les Valkyries, ce sont des guerrières mythiques qui, dans votre esprit, je crois, sont nées en 2004, il y a 15 ans.
Oui, 2003. La première guerrière que j'ai faite, la première Valkyrie que j'ai faite en 2003, et en fait, c'est en regardant l'opéra de Wagner et en faisant partie des accessoires, j'ai travaillé dans l'opéra quelques années. En fait, je me suis dit, les Valkyries, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce truc Wagner, les Valkyries? Et je me suis dit, mais Wagner, il a représenté les Valkyries trop masculines, elles sont trop militaires. Mais je me suis dit, mais après, en regardant bien la mythologie, en ayant un regard différent, je me suis dit, mais il manque quelque chose à ces déesses. Il leur manque la féminité, la sensualité, le côté plus organique, un côté plus luxueux, finalement, et moins militaire. Alors, je me suis dit, je vais faire mes Valkyries. Et ça a commencé comme ça. Au départ, c'était des pièces qui avaient une forte relation avec le craft. Elles sont entièrement faites à la main, même aujourd'hui, mais elles avaient moins de technologie. Et en fait, j'ai fait les premières Valkyries, elles étaient une récupération de vieilles pièces, des vêtements, des choses que je faisais à la main, du tricot, du crochet, que je rassemblais. Elles étaient très basées dans le recyclage. Et après, elles sont devenues un mélange entre le tricot et les tissus. Après, plus tissus, bon, et après, plus broderie. Elles ont évolué aussi dans le temps.
Il y a une dimension très ludique dans votre travail, très humoristique, très fantaisiste. Mais il y a aussi une dimension très politique et subversive. Vous avez les deux au même niveau dans votre volonté artistique, ou une prend le pas sur l'autre de ces deux dimensions?
Ça dépend du projet, ça dépend de l'œuvre et ça dépend de l'exposition et de la démarche. Après, ça dépend de l'œuvre, parce que j'ai des œuvres où je parle de certains thèmes et d'autres où je ne parle pas du tout. Et aussi, ça dépend du commissariat. Ça veut dire que j'ai un commissaire plus politique, il va rassembler des pièces qui sont plus politiques que des commissaires qui veulent le côté plus luxueux, plus blasé, ça dépend.
Vous vous adaptez, en fait.
Oui, en fait, j'ai un univers d'œuvres qui est suffisant pour faire différents commissariats. Et après, c'est beaucoup de travail avec le commissaire et quelle est sa pensée, sa démarche personnelle.
Il y a quelque chose de féministe dans votre démarche?
Oui, tout à fait.
Revendiqué, assumé?
Oui.
Dans quel sens?
Vous savez, moi, je suis dans une profession, dans une ligne de travail, dans une vie. En fait, l'œuvre et la vie, c'est la même chose. Et en fait, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de fois où j'étais la première femme.
Première femme invitée au château de Versailles.
Oui, première femme
à représenter le Portugal à la Biennale de Venise.
Et en 2005, j'étais la première femme de la première Biennale commissariée par des femmes à la Biennale de Venise.
Première femme à avoir fait l'objet d'une rétrospective au musée du Guggenheim de Bilbao en 2018.
Bon. Et voilà, et ça... Ça fait que, dans mon expérience, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avant moi? C'est pas qu'il n'y avait pas des femmes. C'est pas qu'il y a beaucoup de femmes très bonnes artistes dans le monde. C'est pas que je suis très spéciale. C'est que, en fait, elles n'ont pas eu les mêmes opportunités que moi. Et c'est vrai, moi, je suis portugaise. Je ne suis pas d'un grand pays. Je ne suis pas riche. Je n'ai pas eu des choses très spéciales. Je n'ai pas une grosse galerie derrière moi. Et le fait que je suis la première femme dans toutes ces occasions, ça fait que je pense beaucoup au fait que d'autres femmes n'ont pas eu la même chance que moi j'ai eue. Ça montre que le monde doit encore changer pour que les opportunités soient les mêmes. Je ne suis pas féministe d'une idée, je suis féministe d'une expérience personnelle, de ma vie. Et en fait, d'autres femmes qui n'ont pas pu faire ce que je fais. Et c'est réel. Ce n'est pas abstrait. Ça veut dire que quand j'étais dit que je ne pourrais pas gagner mes pièces, elles ne pourraient pas avoir le même prix d'un autre artiste, notamment français, du même âge, je me dis, mais pourquoi je ne peux pas coûter la même chose? Parce que j'étais une femme. Quand les directeurs des techniciens des musées me disent, mais est-ce que vous savez bien qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce qu'ils doutent de mes capacités d'ingénierie, d'architecture, parce que je suis une femme. Et moi, je dois dire, ben, vous savez, j'ai 7 architectes et j'ai 3 ingénieurs qui travaillent avec moi. C'est pas suffisamment... Ma parole n'est pas suffisante. Parce que je suis une femme et jeune. Alors peut-être je sais pas trop qu'est-ce que je suis en train de faire. Alors c'est vrai que ce sont des expériences personnelles. Hein, et c'est vrai que c'est très difficile en tant que femme, en tant que sculptrice monumentale, de faire mon travail. C'est très difficile d'arriver à un musée et dire je vais faire un truc de 2 tonnes suspendu du plafond. Les gens me regardent, mais est-ce que tu sais bien qu'est-ce que tu es en train de dire? Si j'étais un mec avec, tu vois, un grand mec avec un... personne ne me demanderait si je sais ce que je suis en train de faire.
Bon, c'est pas parce que vous êtes une femme, Johanna Vasconcelos, que je vais vous interrompre. C'est juste parce qu'il est 7h30 qu'il faut qu'on laisse passer les 2 minutes des titres de l'actualité. On vous retrouve tout de suite après les titres de l'actualité au Bon Marché. Et on va aller la voir, cette Simone, si vous le voulez bien.
Et les titres de l'actualité sont présentés par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Plusieurs couleurs seront arborées dans les rues aujourd'hui pour cette nouvelle journée de colère sociale. Les gilets roses, ce sont les assistantes maternelles, manifestent aujourd'hui. Les nounous dénoncent la réforme de l'assurance chômage qui prévoit de diminuer leurs indemnités quand elles n'arrivent pas à gagner suffisamment d'argent pour vivre alors qu'elles travaillent. Dans la rue aussi, il y aura les stylos rouges qui ont prévu de défiler à Paris. Il s'agit des enseignants qui réclament notamment une hausse de leur salaire. Alors comme tous les samedis depuis 12 semaines maintenant, les Gilets jaunes appellent aussi à défiler. On y reviendra largement dans le journal de 8h sur France Culture. 150 personnes ont passé une troisième nuit dans un gymnase du 8e arrondissement de Paris, à quelques pas de l'Élysée, réquisitionné par l'association Droit au Logement, qui réclame un logement décent et durable pour ces personnes seules ou en famille, parfois avec des enfants en bas âge, et qui aujourd'hui vivent à la rue dans des hôtels ou des logements indignes. Laurent Gbagbo est sorti de prison. L'ex-président ivoirien a quitté hier le centre pénitentiaire de la Cour pénale internationale de La Haye. Il comparaissait pour crime contre l'humanité aux côtés de Charles Blé Goudé, ancien chef de file des Jeunes Patriotes, lui aussi acquitté. Mais après examen d'un appel du parquet, les juges de la CPI ont libéré les deux hommes sous condition. On y reviendra. Un Français soupçonné de trafic de drogue qui s'était évadé de sa prison en Indonésie dans la nuit du 20 au 21 janvier a été capturé, annonce ce matin la police du pays. Félix Dorfin est originaire de Béthune. Il a été trouvé hier soir sur les indications des habitants alors qu'il se cachait dans une forêt du nord de l'île de Lombok. Et puis une météorite est tombée hier soir sur l'île de Cuba provoquant une forte explosion entendue dans plusieurs localités de la province de Pinar del Rio dans l'ouest du pays. Pas de blessés ni de gros dégâts signalés pour l'instant, même si certains de ces fragments de météorites mesurent jusqu'à 30 cm de diamètre.
Ça alors, à suivre d'ici le journal de 8h, Sophie Delpont, à 7h40, la fabrique médiatique sur le rôle du CSA, avec la journaliste Françoise Laborde, qui en fut membre, et le député européen Jean-Marie Cavada, qui a présidé aux destinées de plusieurs entreprises audiovisuelles, dont la belle nôtre Radio France. Et dans un instant, suite et fin de la rencontre avec l'artiste Johanna Vasconcelos devant sa majestueuse installation dans un grand magasin parisien.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Des histoires du réel, chaque samedi et dimanche sur France Culture, une histoire particulière. Marie Chartron.
En 1917, deux jeunes américaines sont embauchées dans le New Jersey pour peindre des cadrans à la peinture radioactive phosphorescente Undark. Et lorsqu'elle rentre chez elle à la nuit tombée, elle luise dans le noir.
Les ouvrières n'ont pas tardé à comprendre qu'il était dangereux de sucer leurs pinceaux. Et en effet, elles sont tombées malades.
Femme de la classe ouvrière face à la grande industrie du radium, à découvrir dans une histoire particulière.
Radium Girls, récit documentaire en deux parties, des femmes lumineuses, ce samedi à 13h30 et sur franceculture.fr.
Et on est à nouveau avec notre invitée aujourd'hui, l'artiste Johanna Vasconcelos. Entre-temps, on a avancé dans le Bon Marché à Paris, puisque nous sommes au Bon Marché avec vous, Johanna Vasconcelos, et on est derrière cette fameuse Simone, l'une des Valkyries donc, que vous avez créée pour le Bon Marché. Alors, qui est Simone ?
Alors, Simone, c'est une Valkyrie blanche de 35 mètres de long qui prend les escalateurs en milieu. Elle a des bras qui passent en dessous, sur et à côté. Et elle regarde les chaussures. Ça veut dire qu'elle a la queue vers les vêtements en solde en ce moment. Et elle regarde les nouvelles collections de printemps des chaussures.
Si vous deviez donner une image de Simone, à part, bon, c'est une suspension organique, tentaculaire.
Ouais.
On va décrire les matériaux, on a déjà la couleur. Mais dans votre esprit, ça ressemble à quelque chose d'existant ?
Non, ces pièces, elles sont un corps. Et c'est un corps qui a toujours une tête, ça veut dire la partie de devant, une espèce de nez. Et après, elles ont deux bras, ce sont les deux tentacules qui sortent de la partie de devant. Après, elles ont un corps qui se divise ici entre les escalateurs et qui est tentaculaire des bras, une espèce de division. Après, elle a une queue.
Elle a une queue.
Elle a trois bras qui sortent de la queue et qui font une espèce de relation avec le bâtiment, comme si elle était arrivée. Elle est arrivée, elle s'est plantée ici au Bon Marché. Elle s'est dit, je vais faire du shopping, je vais faire mes courses, les soldes ici au Bon Marché.
Mais elle est plutôt bienveillante.
Oui, elle est bienveillante. Elle a des lettres, ça veut dire elle a une relation entre le craft, ça veut dire le tricot, le crochet, les tissus, et la technologie.
Vous adoriez faire du tricot quand vous étiez petite?
Oui, non, j'étais pas une super spécialiste.
Du macramé aussi?
Oui, macramé, oui, absolument.
C'est souvent ce que vous utilisez dans vos œuvres d'ailleurs, Johanna Vasconcelos, de la céramique, de la broderie, de la ferronnerie, des tissus très différents. Mais pourquoi Simone? D'où vient ce prénom de Simone?
Parce que c'est un nom français. C'est un nom, on a pas mal de Simone qui ont changé la culture française et qui ont changé le rôle de la femme, la perspective du rôle de la femme. Et en fait, je fais toujours hommage aux femmes des lieux où je suis en train d'exposer. L'identité est très importante. Et je veux avoir une liaison à la culture et aux femmes qui ont, dans leur temps, dans leur culture, changé un petit peu le regard qu'on a sur les femmes. C'est le cas de Simone Veil et Simone de Beauvoir. Bon. Pas mal de Simone et toutes les Simones qui existent en France.
Bel hommage aux Simones. Johanna Vasconcelos, on a commencé avec la Valkyrie et vous parliez de Wagner. Et on va justement passer là aussi de l'histoire au temps présent en allant de Paris à Strasbourg. Parce que en ce moment même, une exposition vous est consacrée, une exposition plutôt rétrospective,
oui,
au Musée d'art moderne et contemporain, oui, de Strasbourg, que vous avez intitulée « I want to break free ». En hommage à la chanson de Queen. Alors c'est pareil, on passe de Wagner à Queen. Pourquoi Queen? Pourquoi I want to break free? C'est votre liberté, votre envie de casser tout?
Oui, c'est exactement ce que j'ai expliqué. C'est que c'est cette relation de changer la tradition et de la transformer dans la contemporanité et vers le futur. On peut regarder le rôle de la femme différemment aujourd'hui, à présent, et on peut le changer pour les prochaines générations. C'est pas obligé qu'on soit toujours dans la tradition, toujours dans des rôles déterminés par la société. On peut réinventer notre rôle et on peut être qui on veut. I want to break free dans le sens positif. Je veux changer le passé, je veux changer le rôle de la femme, je veux changer l'identité, mais je veux garder les choses qui étaient bonnes et les choses qui étaient importantes. Parce que la tradition, elle est importante de maintenir les savoir-faire, les relations émotionnelles, ce que notre mère et notre grand-mère nous ont appris. Mais il faut en même temps savoir changer pour le futur pour que notre rôle soit plus réel, plus honnête avec nous-mêmes, nous-mêmes femmes.
Johanna Vasconcelos, on est passé de Paris à Strasbourg, on va revenir à Paris, mais on va quand même sortir du Bon Marché parce que dans quelques jours sera officiellement inaugurée une autre œuvre monumentale que vous avez créée, mais alors dans un tout autre lieu qui est Paris. Paris n'est pas seulement le Bon Marché, le temple du luxe. Paris, c'est aussi un autre endroit qui est Porte de Clignancourt où vous avez choisi d'installer un cœur rouge monumental. Vous pouvez nous dire quelques mots de ce cœur rouge monumental, Porte de Clignancourt?
Bon, d'abord, moi, je suis née à Paris en 71, pas très loin de Porte Clignancourt. Et en fait, c'est de revenir où mon cœur a commencé à battre, ici à Paris. Et en fait, je suis très contente parce que c'est un projet qui a pris plus de 2 ans à faire avec les commanditaires de Porte Clignancourt, avec la ville de Paris. Et c'est en fait un grand, grand projet du tramway de Paris. Et en fait, de pouvoir faire un arrêt, d'être présente dans le côté du métro et d'être présente dans la démarche de la ville, l'art public,
oui,
une partie très
importante. Tout à l'heure, on parlait des lieux et justement, voilà, l'art dans la rue aussi.
Dans la rue, c'est très important d'être présent dans les communautés, dans les quartiers, autour des gens et des gens que normalement n'y vont pas au lieu de l'art contemporain.
L'art doit être partout.
Il doit être partout, soit au Bon Marché, soit à Porte Clignancourt. Et c'est bien d'être présent à Paris dans deux univers complètement différents, qui est Porte Clignancourt et le Bon Marché au même temps. C'est un privilège.
Merci beaucoup, Johanna Vasconcelos.
Merci.
On va se quitter en musique. Si je vous donne 3 possibilités, vous diriez qu'on va se quitter avec la Valkyrie, avec Amalia Rodriguez ou avec Queen?
Les 3. Je peux pas, il faut que j'en choisisse une. Alors, c'est très difficile entre Wagner, Queen et Amalia.
Et c'est pour ça que je vous laisse le choix.
Je choisis Amalia.
Ok, merci beaucoup.
Merci.
Solidão cá entre meu, uma tentação do céu e desencanto, eis o que o céu me deu. Serei bem eu, sob este véu de pranto, sem saber se choro algum pecado, a tremer imploro o céu fechado. Triste amor, o amor de alguém, quando outro amor se tem abandonada e não me abandonei. Por mim ninguém já se detém na estrada.
Branco Luz, la Simone de Johanna Vasconcelos, est donc au Beaumarchais à Paris jusqu'au 24 mars. La rétrospective de ses œuvres est au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg et elle dure jusqu'au 17 février. Merci pour la prise de son à Lucien Lefebvre.